Mondial Sport sur RFI. Tom Rossi.
Bonsoir à toutes et tous. Un Colombien à Paris, sauf accident, c'est Egan Bernal qui va remporter le Tour de France cycliste édition 2019 et être sacré pour la première fois sur les Champs-Élysées demain. Bernal a conservé son maillot jaune ce samedi à l'issue de l'avant-dernière étape à Val Thorens. Toutes les réactions à venir avec un de nos envoyés spéciaux, Thomas de Saint-Léger. La CAN terminée, mais le football ne s'arrête jamais dans Mondial Sport avec les éliminatoires du CHAN. Et puis vous entendrez et peut-être découvrirez Camus Malo, nouveau sélectionneur du Burkina Faso. Et enfin, à deux mois, jour pour jour, des mondiaux d'athlétisme, on fera une escale à Saint-Étienne. C'est là-bas que se disputent ce week-end les championnats de France. Là-bas aussi, que des Ivoiriens brillent sur 100 mètres. Oui, oui, vous avez bien entendu, à vos marques, prêts. Mondial Sport, c'est parti.
L'étape entre Saint-Jean-de-Maurienne et Tignes, longue de 126,5 km.
Colombia, país sufrido latinoamericano. Hoy Colombia goza a un estilo diferente que se llama Egan Bernal.
Egan Bernal qui est revenu quand il l'a voulu et c'est lui qui attaque maintenant, attaque d'Egan Bernal alors qu'il y a toujours 4 hommes à l'avant.
Esto pasa, Tour de Francia en el bolsillo. Egan, te amo, eres un campeón Egan.
Et Bernal, il va leur faire mal.
Et Egan Bernal qui s'envole.
Trop fort, Bernal.
Trop fort, Egan Bernal, sur ses routes, à ses altitudes.
Il s'envole,
Egan Bernal.
La victoria del colombiano Egan Bernal. Extraordinario. Lo que ha sucedido hoy.
On le sentait, on l'a compris hier. C'est lui le plus fort dans ses cols.
Egan, campeón. Colombia te ama, Egan.
Biba Colombia, on peut le dire, sauf accident. Egan Bernal va remporter demain à Paris le 106e Tour de France. Bonsoir Thomas de Saint-Léger.
Bonsoir Tom, bonsoir à tous.
C'est un moment historique pour ce jeune coureur de 22 ans et plus globalement pour son pays.
Oui, je rajouterais même le continent sud-américain. Jamais jusque-là un coureur issu de cette partie du globe n'avait remporté la grande boucle. Vous comprenez mieux cette voix qui s'enflamme, s'étrangle, se déchire, celle d'Alfredo Castro, commentateur vedette en Colombie, pays passionné de vélo, pays de grimpeurs racés comme Lucho Herrera dans le passé, Nairo Quintana plus récemment, deux références désormais surpassées par un garçon de 22 ans au visage poupin comme taillé dans la cire. Egan Bernal, le Condor, a survolé les Alpes où s'est donc joué le sort de ce Tour de France. Acte 1, jeudi sur la route de Valoir, première attaque importante de Bernal dans le Galibier, première seconde grappillée sur les autres favoris. Acte 2, hier, abandon de Thibaut Pinot, son plus sérieux rival, attaque tranchante dans le col de l'Iseran et maillot jaune chippé à Julian Alaphilippe. Acte 3, dénouement aujourd'hui, Egan Bernal termine quatrième d'une étape remportée à Val Thorens par Vincenzo Nibali, mais il ne concède rien à ses rivaux. Sacre assuré demain à Paris, au bout d'une boucle qu'il n'aurait jamais dû débuter. Egan Bernal devait disputer le Tour d'Italie. Finalement, il s'est blessé juste avant. Il n'a pas pu prendre le départ du Giro. Rétrospectivement, c'était peut-être un mal pour un bien.
Qu'est-ce que je peux vous dire? Depuis l'année dernière, je me préparais à faire le Tour d'Italie. J'étais vraiment concentré dessus, je n'arrêtais pas de penser à ça. Giro, Giro, Giro. J'étais dans une bonne forme, mais je suis tombé, je me suis cassé la clavicule. Les choses se sont passées ainsi, et maintenant je suis sur le point de gagner le Tour de France. C'est incroyable. Voilà, simplement, les choses se sont passées comme ça.
Les choses sont comme ça, tout semble simple pour lui. Et pourtant, ce tour dont il était favori avec son coéquipier tenant du titre, Geraint Thomas, était loin d'être joué il y a quelques jours, Thomas.
Il y a eu énormément de surprises, l'épopée de Julian Alaphilippe, 14 jours en jaune. On s'est vraiment demandé à un moment s'il allait craquer ou non. Il y a aussi eu des coups d'éclat de Thibaut Pinot, par exemple au Tourmalet, des écarts longtemps très serrés. Et de manière générale, l'impression que l'équipe Ineos, l'équipe de Bernal et Thomas, anciennement Sky, ne dominait pas son sujet comme à son habitude. Finalement, coup de maître, elle remporte son 7e tour en 8 ans, avec en plus Geraint Thomas sur la 2e marche du podium. Le tour le plus fou de ces dernières années se conclut finalement de la manière la plus prévisible possible. C'est une drôle d'ironie pour les suiveurs, mais dans la maison Ineos, on ne s'est jamais affolé, on avait tout préparé. comme d'habitude, de manière très pointilleuse. Écoutez, le grand Manitou, en quelque sorte, de l'armada britannique, le manager Dave Brailsford.
20 jours, je pense que le Tour de France dure 21 jours. Il ne faut pas faire une décision après 18 jours. Il faut attendre la finale. Par contre, je pense que c'était chaotique en fait, mais la stratégie a gagné contre le chaos. Je pense que le monde le plus difficile de tous les tours, en fait, c'était l'Iseran. Mi-course, très très haut. Alors pour nous, c'était vraiment l'étape et le moment pour essayer de gagner le tour et puis ce qui se passe en fait.
Dave Brailsford, le manager de l'équipe Ineos, les Alpes ont scellé le destin des Français. Pinot KO hier d'abord, Alaphilippe dans les cordes aujourd'hui, il finira finalement cinquième. Mais les Alpes ont aussi été le théâtre d'une résurrection, Thomas.
Oui, celle de Vincenzo Nibali, méconnaissable depuis le départ. Il faut dire qu'il a le Tour d'Italie dans les jambes, mais le champion transalpin a de l'orgueil, du panache. Il l'a montré en s'imposant tout seul comme un grand. Aujourd'hui à Val Thorens, c'est sa 6e victoire d'étape dans la grande boucle. Il sauve son tour, le Sicilien.
Tour sauvé à moitié, au moins aussi pour Romain Bardet.
La grande déception française des deux premières semaines, pas du tout dans le coup. Il s'est rebiffé dans les Alpes, deuxième place à Valoire et surtout le maillot à poids du classement de la montagne qu'il sauve pour 8 petits points par rapport à Bernal, un bolo de consolation.
J'ai pas ménagé mes efforts pour être à l'avant, prendre des échappées, ça n'a pas toujours marché, mais en tous les cas j'ai essayé de ne pas baisser les bras et ça me fera grandir en tant qu'homme. Là, j'ai bien conscience que j'étais pas sous mon meilleur jour, sous mon meilleur visage sur ce Tour de France. Voilà, on a gardé la foi, on s'est battu et dans la vie il faut un petit peu de réussite. Aujourd'hui c'était poteau rentrant un petit peu pour moi, voilà, on s'est accroché et un petit peu de réussite, ça met du baume au cœur parce que ça n'a pas été toujours le cas. En tout cas, voilà, le moral était bon et on a gardé le cap et c'est une belle consolation pour tout le monde.
Voilà pour ce premier bilan du Tour qu'on complétera quand même demain puisqu'il reste une étape. La traditionnelle arrivée sur les Champs-Élysées, sauf énorme coup de théâtre, le général ne peut pas évoluer. En revanche, il y aura une victoire de prestige à aller chercher sur la plus belle avenue du monde. Et on y sera avec Bertrand Eclair, Carlos Pizarro et Christophe Diremzio.
Merci à vous Thomas de Saint-Léger et à demain. La CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, est à peine terminée que déjà le CHAN, le Championnat d'Afrique des Nations, en tout cas ses éliminatoires, débutent. Et pour en parler, on accueille dans ce studio le Kérot, revenu à Paris, Antoine Grenier. Bonsoir Antoine.
Bonsoir Tom, bonsoir tout le monde.
Nouvelle journée de tour préliminaire de qualification pour le CHAN ce samedi, avec deux équipes présentes à la CAN sur les terrains.
Le Burundi d'abord, les Hirondelles dirigées par Alain Nyungeko, le même sélectionneur qu'à la CAN en Égypte, et qui se sont imposés les Burundais 2-0 sur le Soudan du Sud. Victoire également pour l'Ouganda, sans Sébastien De Sabre qui avait dirigé les Cranes au Caire mais qui est resté en Égypte pour prendre les rênes du Pyramids FC. Mais les Cranes locaux ont tout de même pu compter sur un joueur qui avait brillé à la Coupe d'Afrique. Patrick Kadou, l'avant-centre ougandais, a ouvert le score face à la Somalie pour un succès final, 3-1. A noter que dans la zone Afrique de l'Ouest A, le Mali est parfaitement entré dans son premier tour de qualification. Les joueurs de Noumdramé vainqueurs 4-0 en Guinée-Bissau. Autant dire que le match retour devrait ressembler à une formalité. Ce sera également plus ouvert entre la Mauritanie et le Cap-Vert, les Mauritaniens étant venus chercher le nul chez les Cap-Verdiens 0-0.
Demain, suite de ces éliminatoires.
Et en Afrique de l'Ouest, zone A toujours, le Sénégal est en déplacement au Liberia pour son match aller du premier tour éliminatoire. Dans la zone B, le Bénin accueille le Togo pour déterminer qui ira affronter le Nigeria au deuxième tour. La revanche au niveau local du match décisif des éliminatoires de la CAN, on s'en souvient. Les Béninois avaient éliminé les Togolais, des Béninois qui veulent aussi profiter de la lancée de leur quart de finale de Coupe d'Afrique, à l'image du sélectionneur Moussa Tounji au micro de Félix Soundé Pepe-Ripe.
Ça ne plus permis au Bénin de jouer le dernier rôle, c'est de jouer vraiment devant maintenant. Si on termine dans les 8 premiers de l'Afrique, je pense que l'ambition c'est là et les joueurs sont conscients de ce qui s'est passé à la CAN et les locaux aussi veulent montrer de quoi ils sont capables pour rentrer dans l'équipe A et donc voilà. Voilà, c'est l'ambition est là et la ligne qui est tracée par le coach de l'équipe A, c'est la ligne là que nous on doit suivre pour que les bonnes choses se passent. On a des éléments qu'il faut pour battre le Togo. Ce n'est pas facile, mais il faut toujours aller chercher les 3 points bien et beaucoup de buts et puis voilà.
Dans la zone Afrique centrale, la République centrafricaine accueillera Sao Tomé et Principe pour les grands débuts de Bruce Abdoulaye à la tête de la République centrafricaine à prime. Et puis le Tchad retrouve les terrains après 3 ans de suspension, le Sao local opposé à la Guinée équatoriale.
Et enfin dans la zone Afrique de l'Est, retrouvailles entre le Kenya et la Tanzanie.
Qui s'étaient affrontés lors de la dernière CAN. Les Kenyans avaient décroché dans le groupe C leur seule victoire, 3-2, c'était face aux Tanzaniens. Et Sébastien Minier qui dirige également cette équipe locale kenyane s'en souvient très bien, mais il prévient le contexte est différent.
La première victoire avec enjeu lors d'une phase finale pour le Kenya, qui plus est dans un derby contre la Tanzanie, donc oui, très bon souvenir à l'issue d'un match au niveau émotionnel assez palpitant, donc évidemment content. Après, la Tanzanie n'a pas beaucoup de joueurs qui évoluent à l'étranger, donc ils ont, sur ce que j'ai pu lire, une dizaine de joueurs qui étaient à la Coupe d'Afrique des Nations, qui seront là demain. Nous, on n'en a que 2 opérationnels pour le match de demain, dont un qui était titulaire avec moi. Donc voilà, on part un petit peu à l'aventure. On ne sait pas ce que ça va donner. On est très jeune demain, mais justement, on va avoir quelques réponses pour savoir si les garçons sont susceptibles d'intégrer l'équipe, la réelle équipe A, à partir de septembre.
Voilà, Sébastien Minier. Et puis les autres affiches de ces éliminatoires du CHAN prévues ce dimanche. Île Maurice contre Zimbabwe, Madagascar, Mozambique, Eswatini, Angola et Lesotho, Afrique du Sud.
Et à présent, Antoine, on va entendre le nouveau sélectionneur du Burkina Faso, nommé cette semaine, présenté vendredi. Camou Malo a répondu aux questions de RFI.
Et nommé sélectionneur des étalons en remplacement de Paolo Duarte, l'ancien entraîneur de l'USFA, incarne un véritable changement, le retour aux manettes des techniciens locaux. Pur produit de la direction technique nationale du football burkinabé, Malo, officier de police quand il n'est pas au bord des terrains, bénéficie d'avantages jamais accordés à un entraîneur du CRU, comme un appartement ou un véhicule de fonction, avec la volonté de reconstruire un football burkinabé meurtri par la non-qualification pour la CAN 2019. Camou Malo, qui se sent soutenu par les autorités nationales, le public et les joueurs, il s'engage avec confiance pour qualifier les étalons à la CAN 2021. Camou Malo, au micro de Gabriel Barrois.
Bien que j'ai eu un passage en Allemagne pour ma formation, je me réclame en tout cas de la formation burkinabé parce que j'ai pratiquement fait tous mes diplômes au pays ici. Nous comptons non seulement sur nos collègues entraîneurs qui n'ont pas eu la chance d'être choisis parce que je ne suis pas forcément le meilleur parmi eux. Je demande vraiment leur accompagnement et je pense que c'est un défi qu'on devrait en tout cas s'atteler à relever ensemble. Le défi ne se présente pas simplement à Camou Malo, mais c'est à l'ensemble des techniciens burkinabés. Je pense qu'ils l'ont compris. Le directeur technique national, en tout cas, m'a assuré de leur soutien constant. C'est le lieu ici de saluer, en tout cas, la Fédération burkinabé de football pour cette décision vraiment, j'allais dire, salutaire pour nous, techniciens burkinabés.
Oui, et puis vous avez l'obligation de qualifier les étalons pour la CAN 2021. Ça, c'est déjà le gros chantier auquel vous ferez face. Hein.
Naturellement, parce que au début, tout le monde pensait que l'objectif premier, c'était de rajeunir. Oui, j'ai dit, c'est vrai, ça fait partie. Mais nous pensions, en tout cas, que ce ne serait pas normal que nous ne qualifions pas. Mais se qualifier déjà serait une très bonne chose pour nous. Ça va nous donner beaucoup plus de temps pour construire. Ça va donner en tout cas une indication que nous sommes en train de faire du bon travail. Donc pour cela, nous attellerons en tout cas dans les prochains jours à mettre en place pas une nouvelle équipe, une équipe compétitive capable en tout cas de nous valoir cette qualification et surtout augurer de bon lendemain.
Justement, vous parliez de restructuration de l'équipe. Comment est-ce que cela va se passer? Est-ce que les locaux auront une place de choix dans cette future équipe que vous êtes appelé à diriger?
Bon, ce serait me renier si je disais que les joueurs locaux n'auront pas une place prépondérante ou de choix dans cette équipe. Moi-même, je suis issu de ce championnat, qu'on nous appelons affectueusement le Faso Foot. Alors, nous avons en tout cas pour objectif également de booster l'ensemble du football burkinabé. Même si l'équipe nationale doit en être le miroir, le fait que l'entraîneur soit issu du Faso Foot, je pense que ça va redonner beaucoup plus de courage à ces jeunes-là qui vont vouloir taper, en tout cas, à la porte de cette sélection. Je pense qu'ils font partie des hommes auxquels nous allons faire confiance, en tout cas pour l'avancée de notre équipe nationale.
Dans votre tâche, vous serez accompagné par d'autres expertises nationales, croit-on savoir. Est-ce que vous avez déjà une idée de la composition de votre staff technique?
On m'avait déjà briefé en tout cas sur la qualité des hommes qui devraient m'accompagner et affirmer ça nous. Qui connaît déjà le vestiaire étalon, ça, ça serait un avantage probant pour nous. Et en plus, c'est un ancien international. Il y a un garçon aussi également comme Alain Nana, deuxième adjoint, j'ai comme entraîneur de gardien. Nous avons un garçon comme Sabrama qui a fait toutes ses classes au Canada. Un préparateur et un kiné, tous européens. Donc je me dis que quand même, bon, si c'est un staff professionnel et équilibré qu'on cherche, même s'il n'est pas professionnel comme les gens le pensent, nous pensons être à la hauteur en tout cas de la tâche qu'on nous a confiée. Et à ce titre-là, nous avons en tout cas le devoir de rendre heureux ce peuple burkinabé là.
Des joueurs professionnels, quel est leur sentiment par rapport à votre nomination?
Et ces joueurs cadres, ils adhèrent bien sûr au projet parce que je sais qu'avant que je ne sois nommé, quelqu'un s'était déjà chargé de faire ce travail-là pour voir. Et je pense que les 10 cadres ont donné en tout cas leur bénédiction à cette nomination. Et je vais plus loin. Alors si d'aventure, ils accompagnaient le projet, alors le futur des étalons, que ce soit sur le plan encadrement et tout, viendra d'eux. Donc je pense que en épaulant le projet que la fédération a voulu mettre en place, ils s'ouvrent une porte à eux-mêmes.
Kamou Malo, le sélectionneur du Burkina Faso, qui devra batailler dans son groupe d'éliminatoire de la CAN 2021 avec l'Ouganda, le Malawi et le vainqueur du match de barrage, Seychelles, Soudan du Sud.
CAN, CHAN et AfroCAN. Sur RFI, on vous donne les résultats de toutes les coupes d'Afrique. Cette AfroCAN, c'est une nouvelle compétition continentale de basket réservée aux joueurs qui évoluent sur le continent. Elle est censée combler le vide laissé par l'AfroBasket qui se déroule à présent tous les 4 ans. Et cette première édition se déroulait cette semaine au Mali, au Palais des Sports de Bamako. Et le premier vainqueur, c'est la République démocratique du Congo, Antoine.
Oui, des Congolais qui n'ont fait qu'une bouchée du Kenya en finale 82-61. La différence s'est faite dans le troisième quart-temps. Des Congolais qui décrochent ainsi le tout premier titre continental de leur histoire. Maxime Unanga Shamba, le meneur de cette équipe de RDC, a reçu le titre de MVP dans cette toute première édition de l'AfroCAN. La petite finale, le match pour la troisième place, a vu de son côté la victoire de l'Angola face au Maroc 88-71.
Et de Bamako, on file bien au nord, Antoine. Direction Saint-Étienne où se disputent ce week-end les championnats de France d'athlétisme. Ça se passe au stade Henri Lux, à seulement un lancer de javelot du mythique stade Geoffroy Guichard.
Et après une journée d'hier prometteuse, le vent et la pluie se sont invités à la fête ce samedi. Fête à laquelle participent certains ténors de l'athlétisme africain licenciés dans l'Hexagone. Alors ont-ils réussi à composer avec ces conditions climatiques dantesques? Reportage à Saint-Étienne de Thomas Moulin.
Allez, maintenant, on les encourage, la finale du 100 mètres, féminin, Marie-Josée Talou.
Peu importe les conditions, elle répond toujours présent. Sur la ligne droite, Marie-Josée Talou est impressionnante de régularité.
Wow, le chrono, 11 secondes, 0,7.
Temps corrigé à 11 secondes et 6 centièmes pour la sprinteuse ivoirienne, satisfaite de ses bonnes dispositions du moment.
Vu le climat, c'est normal que le chrono soit 11,06. Je pense que si ça aurait été le même climat qu'hier, ça allait descendre sous les 11 secondes. Mais après, je suis content de faire 11,06 dans ces conditions. Ça peut dire que la forme, elle est là, donc on va retenir, bosser et puis le reste viendra. Mais là, je suis contente d'avoir pu terminer la course de tennis sur mes jambes en tout cas.
Sur le 100 mètres, qu'est-ce que vous pensez encore améliorer en vue des mondiaux?
Mon départ déjà. C'est mon départ qui cloche et là, c'est juste le départ. Et aussi le cassé.
Marie-Josée Talou restait avant ses championnats sur 300 mètres en moins de 11 secondes, une performance qu'aimerait bien réaliser Carole Zahi. Elle aussi née en Côte d'Ivoire, la Française a réussi à faire fi de la pluie pour terminer deuxième et conserver son titre national.
Quel que soit l'événement, en fait, faut être prête le jour J, quelles que soient les conditions. Bon, malheureusement, c'était pas du tout à notre avantage, mais il fallait être prête. Et je suis restée concentrée du début à la fin. Je me suis pas du tout focalisée sur le temps. Le plus important, c'était de respecter les phases de course. Bon, ça n'a pas trop été le cas en finale, mais... J'ai su m'adapter et je suis satisfaite de ça. Voilà.
Son objectif désormais, passer sous la barre des 11 secondes et 10 centièmes requis pour les prochains championnats du monde. Des minima réussis hier chez les hommes par Jimmy Vico. Du coup, face aux conditions climatiques, le recordman d'Europe du 100 mètres a préféré zapper la finale. C'est la troisième année de suite qu'il ne défend pas ses chances lors des championnats de France, mais il préfère positiver.
J'ai l'impression que bon, je n'aurais pas jamais 203 comme on dit. Bon, là ça va, au moins je ne suis pas blessé. Mais les autres années, j'étais toujours blessé dans les championnats de France. Voilà, il fait hyper froid, donc pas une prendre de risque. En plus, je ne pourrais pas m'exprimer correctement avec ce climat, donc voilà, c'est mieux ainsi. Pas une me blesser, pour faire plaisir aux gens. Hein. Je cours pour moi, je cours pas pour vous. Hein. Donc ça fait chier un peu, mais bon. Il y aura d'autres courses. Voilà, il reste encore 2 mois avant Doha, donc ça va.
Lui, en revanche, ne s'est pas défilé. L'Ivoirien Arthur Guessissé a longtemps hésité pour finalement s'imposer en 10 secondes et 38 centièmes. Le sociétaire de l'EFS Reims explique son choix.
D'abord pour le respect de mon club. C'est pour ça que j'ai fait la finale. Sinon, c'était prévu de ne pas faire la finale. Mais au point des précautions pour le championnat du monde. Donc, en finale, j'ai pas voulu trop forcer. Et voilà, 10-38, bon, ça va, ça me fait de l'entraînement et on verra la suite. Cette année, l'objectif, c'est de faire 9,86 et aller au championnat du monde frais.
C'est ça. Arthur Cissé, 5e meilleur performeur mondial de la saison sur 100 mètres, après ses 9 secondes, 93 centièmes réalisés mercredi soir à Leverkusen en Allemagne. Lundi, direction Abidjan pour préparer les Jeux africains organisés à Rabat le mois prochain. Elles non plus n'ont pas fait l'impasse malgré les conditions climatiques. Le duel a bien eu lieu à l'heptathlon entre Antoinette Nanajimou et Anaël Niabedjapa. Toutes deux licenciées à Montreuil en région parisienne, toutes deux nées au Cameroun. Seul l'âge et la piste pour les départager. Avantage à l'expérience et à Antoinette Nanajimou, 12 ans après son dernier titre de championne de France.
C'est comme mon troisième. Parce que j'ai pas beaucoup fait d'hepta en France, donc je suis plutôt contente parce que malgré les perfs, elles sont pas extraordinaires. Hein, j'ai réussi à faire 5009. On sait même pas faire la saison estivale parce que je me suis fait opérer en janvier. Et on m'a demandé de faire 3 mois sans sport, donc c'était un peu difficile. Je me dis que je peux faire mieux, donc je m'inquiète pas. C'est-à-dire que là, déjà, j'ai plus de bobos, la forme elle va bien, donc c'est de bon augure en fait.
De bon augure aussi le sacre à la longueur d'Hilary Pacha, la native de Lomé, championne de France grâce à un saut à 6 m44. L'espoir tricolore désormais tourné vers Doha et les mondiaux dans 2 mois. Thomas Moulin, Saint-Etienne, RFI.
Voilà, et à noter qu'en raison des conditions climatiques, de nombreux concours de ces championnats de France d'athlétisme ont été reportés à demain dimanche, comme par exemple la finale du triple saut à laquelle participera le Burkinabé Hugues Fabrice Zango. Direction aussi la finale au lancer de poids pour le Congolais Franck Elemba, les qualifications ayant été annulées.
Allez, maintenant les encourages, la finale du saut.
De la piste d'athlétisme au cours. De tennis, mondial sport décidément sur tous les terrains. Ce soir, on s'intéresse à la meilleure joueuse du continent, Ons Jabeur, la Tunisienne, 59e au classement WTA. Lundi, elle entamera sa tournée nord-américaine avec en ligne de mire l'US Open, tournoi du Grand Chelem new-yorkais qui doit débuter le 26 août. Alors, comment la numéro 1 tunisienne se prépare-t-elle? S'est-elle remise de sa blessure contractée à Eastbourne il y a un mois? Réponse dans ce reportage de Mathias Reynal qui l'a rencontrée à Tunis pendant un entraînement.
Allez, maintenant, on les encourage, la finale du 100 mètres, féminin Marie-Josée Talou.
Peu importe les conditions, elle répond toujours présent. Sur la ligne droite, Marie-Josée Talou est impressionnante de régularité.
Wow, le chrono.
Petite erreur, hein, vous avez reconnu le sujet de Thomas Moulin juste avant sur les championnats de France d'athlétisme. Maintenant, le sujet sur Ons Jabeur va pouvoir partir. Ons Jabeur, reportage de Mathias Reynal.
Sous le cagnard tunisois, quand toute la ville cherche de l'ombre, Ons Jabeur cogne dans la balle, répète le même geste, encore et encore. La joueuse fait l'unanimité sur les cours de tennis d'Almanza, au nord de Tunis.
Elle est une très grande championne, donc elle a une très très bonne carrière.
Elle représente la Tunisie et m'apprend des choses positives du tennis.
C'est une fierté, bien sûr, pour nous. On fait toujours des photos avec elle. Lorsqu'on voit, on la voit, on est très content de la voir. Donc, on ramène même les enfants pour la regarder, pour avoir comme modèle Ons Jabeur.
Ons Jabeur, c'est cette championne qui, lorsqu'on la rencontre pour la première fois, plaisante, met à l'aise immédiatement. Aussi sympathique dans la vie qu'elle est redoutable en compétition. Son programme s'annonce chargé avec bientôt le début de sa tournée nord-américaine.
Washington, Toronto, Cincinnati et l'US Open. Donc c'est une grosse tournée, beaucoup de tournois, beaucoup de changements pour moi. Donc je suis contente parce que c'est la première année que je fais un peu cette tournée. Là je me prépare ici en Tunisie, il fait beau, il fait chaud. Donc une très bonne préparation pour l'US Open.
Elle aura 25 ans pendant l'US Open, l'heure du bilan. Voilà comment elle évoque sa jeune carrière, Ons Jabeur.
C'était un peu difficile de passer de junior jusqu'à senior, jusqu'au pro. Et j'ai fait avec. Je suis contente que j'ai pu avancer à mon meilleur classement l'année dernière. Et j'apprends à connaître mes limites. Donc je suis vraiment contente de pousser. Et ce qui va me permettre d'avancer encore plus. Et pourquoi pas rentrer parmi les top 30 au monde.
Avant la fin de la saison, voilà l'objectif qu'elle s'est donc fixé. Il y a 3 semaines, pourtant, Jabeur s'est blessée à la cheville. Elle a dû déclarer forfait pour la demi-finale du tournoi de Eastbourne en Angleterre.
Karim Kamoun, 32 ans,
préparateur physique de Hans Jabeur.
La Tunisienne est de retour à son meilleur niveau.
Je la sens en forme. Elle a tous les moyens pour arriver. Donc c'est une joueuse, moi je l'appelle, c'est une joueuse créative. Alors quand tu la regardes, c'est comme si tu regardais quelqu'un qui est en train de dessiner un tableau. À chaque fois tu te dis elle va frapper la balle, mais non, elle va faire une amortie. Au lieu de frapper, elle frappe, elle fait des lobes, elle fait des shots, elle fait des twinners. Donc c'est un jeu spectaculaire, créatif et très beau.
Une maîtrise technique qui permet à Ange Jabeur de rêver de réitérer l'exploit de Moscou. En octobre, elle s'était hissée en finale du tournoi. Mathias Reynal, Tunis, RFI.
Et Ange Jabeur qui, à Washington lundi, affrontera au premier tour la Polonaise Iga Świątek, 61e joueuse mondiale. Antoine Grenier, vous êtes toujours là. Vous n'êtes pas parti parce que vous avez encore un petit mot à nous dire, un mot de judo et de la 6e édition du tournoi international de la ville de Niamey.
Une compétition qui n'avait pas eu lieu ces 8 dernières années, qui a pu reprendre en 2019. 5 nations sont présentes, le Bénin, le Burkina Faso, le Mali, le Nigeria et le Niger en tant que pays hôte. Première journée de compétition ce samedi, déjà 2 médailles d'or pour le Burkina Faso chez les moins de 51 kilos, mais surtout dans la catégorie reine, les plus de 100 kilos, avec Rachid Sidibé, vainqueur en finale du Nigérien Momo Kemayou. Le tournoi prendra fin dimanche, mais sa simple organisation est déjà un succès pour Youssouf Abdourahman, le vice-président de la Fédération Nigérienne de Judo.
Pour nous, c'est une édition de relance. Ça fait 8 ans quand même que nous n'avons pas organisé de tournoi. Il fallait quand même qu'on offre un cadre à nos jeunes judokas, n'est-ce pas, pour s'affronter avec leurs amis de la sous-région.
8 ans d'interruption, qu'est-ce qui s'est réellement passé? C'est un problème financier ou bien?
Il y a le problème financier, il y a également le fait qu'il y a eu des changements d'équipe, et ça c'est des perturbations qu'il faut prendre en compte, mais c'est beaucoup plus lié au problème financier. Nous sommes dans un pays où les fédérations sont presque laissées à elles-mêmes, donc il faut chercher des partenaires, être accompagné, n'est-ce pas, dans de telles œuvres. Et c'est ce que nous avons fait cette année en nous disant qu'il ne fallait pas rester les bras croisés. Nous avons eu quelques partenaires qui ont bien voulu nous accompagner et grâce à leur apport, nous allons organiser, n'est-ce pas, ce tournoi pendant 2 journées.
Youssouf Abdourahman, le vice-président de la Fédération Nigérienne de Judo, au micro d'Ousmane Keïta. Et puis pour refermer cette page africaine, Tom, puisqu'on a le temps, on va parler de natation et de la performance de Farida Osman aux Mondiaux de Gwangju en Corée du Sud. Elle a pris la 3e place de la finale du 50 mètres papillon ce samedi. C'est tout simplement la première médaille égyptienne dans un championnat du monde.
Merci Antoine Grenier, on se retrouve demain à la même heure, 21h30, TU. Et du bronze aussi, hein, c'est championnat du monde de natation pour l'équipe de France du relais 4x100 mètres mixte, remporté par les États-Unis qui signent un nouveau record du monde en 3 minutes 19 secondes et 40 centièmes. Enfin, il me reste encore quelques secondes pour vous donner un résultat du rugby championship, pour vous signaler cette belle performance de l'Afrique du Sud qui a arraché un match nul à la dernière minute en Nouvelle-Zélande. 16 partout, les Springboks restent en tête de ce Four Nations, c'est l'ancien nom de ce tournoi. Ils affronteront dans 2 semaines lors de la 3e et dernière journée, l'Argentine battue ce samedi par l'Australie. Voilà, Mondial Sport, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Nicolas Benita, merci à Antoine Grenier qui quitte ce studio. Merci à vous qui nous écoutez. Bonne soirée, bonne nuit et à demain.